est 6h30 à Paris, merci d'écouter RFI, 5h30 à Kinshasa. Une demi-heure d'information africaine avec vous, Sébastien Duhamel, bonjour.
Bonjour Gaëtan, bonjour à toutes et à tous.
Le journal pour commencer, et vigilance et prévention aussi pour commencer, alerte sanitaire dans l'est de la RDC.
Oui, transmise par les animaux et la viande, la maladie du charbon inquiète les autorités. Déjà 11 cas suspects et un décès recensé depuis le mois de février. On entendra la mise en garde et les mesures qui sont préconisées. La RDC ou la Société Nationale d'Électricité dénonce quant à elle un important vol de câbles en cuivre. Près de 39 tonnes dérobées à Likasi, au Katanga, à valeur d'environ 550 000 dollars. Officiellement président du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema a été investi hier à Libreville. 40 000 Gabonais réunis pour la cérémonie, tout comme une quinzaine de chefs d'État du continent. Le Togo, désormais entré pleinement dans sa 5e République également. Fornia Singbe est devenu hier le président du Conseil, malgré les critiques persistantes de l'opposition et d'une partie de la société civile. La suite de nos reportages exceptionnels au Soudan avec notre envoyé spécial à Port-Soudan. On ira ce matin dans une école qui accueille tant bien que mal des centaines d'enfants déplacés pour leur assurer un semblant de vie normale. Un vétérinaire rwandais récompensé lui pour son travail en faveur de la cause animale. Il s'appelle Olivier Nsengimana. Et il œuvre à la préservation des grues couronnées grises, on vous le présentera. L'actu sport est également au programme, comme tous les jours bien sûr. Soyez les bienvenus sur la Radio du Monde. Les premières alertes remontent à la mort de dizaines de buffles et d'hippopotames dans le parc national des Virunga. Et depuis lors, les humains sont touchés à leur tour par la maladie du charbon dans l'est de la RDC. Un décès et au moins 11 cas suspects recensés depuis février au Nord Kivu, dans le territoire de Lubero plus précisément. Cette maladie provient de bactéries pouvant séjourner pendant plusieurs années dans le sol sous forme de spores. Vigilance donc avec les animaux et la viande, nous explique Mumbere Luavo Damoulou. Il travaille pour le programme national de communication pour la promotion de la santé.
Dans une ferme, on a constaté des vaches qui présentaient des lésions cutanées. On a constaté les mêmes signes chez un humain, des éruptions cutanées au niveau du manteau et aussi au niveau de la face. Les agents qui travaillaient autour de la ferme, ils ont pu consommer, manipuler cette viande. La maladie est contagieuse. Quand vous touchez un animal qui est atteint de cette maladie, spécialement les bovins, les caprins, qui ont été contaminés par le bactérie responsable de l'anthrax, une fois que vous les touchez ou vous les consommez, et vous pouvez directement développer la maladie dans 3 à 5 jours. Et c'est pourquoi, parmi les modes de prévention, il faut éviter de toucher la viande ou les animaux malades. Et il faut appliquer systématiquement des bonnes pratiques d'hygiène telles que les lavages réguliers de mains.
L'alerte de Mumbere Luavo Damoulou en RDC. Montant estimé du butin, pas moins de 550 000 dollars. Nous sommes toujours en RDC, mais dans la région du Katanga, où la Société Nationale d'Électricité dénonce le vol à Likasi de près de 59 tonnes de câbles en cuivre. Les faits remontent à plus d'une semaine et les autorités ont déjà interpellé plusieurs personnes dans cette affaire, Denise Maéo.
Il s'agit de câbles électriques sectionnés que la SNEL récupère sur différents sites, notamment après des tentatives de vandalisme. Les 59 tonnes ont disparu alors qu'elles étaient conservées dans deux conteneurs sécurisés. Pourtant, le site d'entreposage de Likasi est protégé par des militaires de la garde républicaine. La région du Katanga est régulièrement confrontée au vol de câbles en cuivre, ce qui perturbe la distribution d'électricité. Ces câbles, composés de cuivre pur, ont une valeur marchande élevée. Au prix actuel de 9 195 dollars la tonne, la cargaison volée est estimée à près de 550 000 dollars. Selon des sources proches du gouvernement provincial, ces câbles sont écoulés dans des unités locales de traitement du cuivre. Certains seraient également exportés vers des pays d'Afrique australe, notamment vers la zone industrielle de Konkola en Zambie, où de nombreuses installations de traitement sont implantées. Il y a un an, un autre important lot de câbles en cuivre sectionné, emballé dans 72 sacs en raffia, avait été découvert à Lubumbashi par la police dans l'entrepôt d'une société privée.
Denise Maéo. Des chantiers qui s'inquiètent peu de leur impact sur l'environnement et pour lesquels les populations ne sont pas suffisamment consultées. Au Congo-Brazzaville, c'est le constat de l'Association pour le respect du droit des populations autochtones, du développement durable et des droits de l'homme. Elle a publié hier une enquête de plusieurs mois réalisée auprès de 4 entreprises des secteurs pétroliers et miniers présentes dans 3 départements du sud du pays.
Libreville, 104 FM.
Un peu moins de deux ans après son coup d'État contre Ali Bongo, quelques semaines après son élection au Gabon, Brice Clotaire-Oligui Nguema est donc officiellement le nouveau président. Il a été investi hier à l'occasion d'une cérémonie au Stade de l'Amitié dans le nord de la capitale, Libreville. Sur place, quelques 40 000 Gabonais et une quinzaine de chefs d'État du continent qui avaient fait le déplacement. Yves Laurent Goma était également présent pour RFI.
Debout dans une voiture au toit ouvert, Brice Clotaire-Oligui Nguema fait son entrée. Depuis la tribune où ils suivent la cérémonie, Hélène Ngonga et Steve Minza, casquette et t-shirt à l'effigie du président, font part de leur émotion.
Ça donne des frissons, c'est beau, c'est magnifique.
À la suite de l'acte de bravoure et patriotisme qu'il a eu à poser le 30 août, c'est ce qui lui donne de manière naturelle carte blanche pour arriver là où il est aujourd'hui.
Le président prête serment devant la Cour constitutionnelle et reçoit ensuite les attributs du pouvoir. Dans les gradins du stade, l'heure est à l'espoir.
Il va commencer cette année avec beaucoup de défis, mais je pense que s'il continue avec la même vigueur qu'il avait au départ et s'il met un peu plus de rigueur, s'il y a la sanction, je pense qu'il pourra réussir.
Mais cette prestation de serment est aussi l'occasion pour d'autres Gabonais de mettre en garde le nouveau président.
Mais qu'il ne nous trahisse pas en devenant dictateur, qu'il continue à faire ce qu'il a commencé à faire, c'est ce qu'on attend de lui.
Le peuple a confiance en lui, il n'a pas à s'orienter vers une quelconque dictature.
Un défilé militaire marqué par un saut des parachutistes a clos la cérémonie. Yves Laurent Goma, Libreville, RFI.
N'en déplaise à l'opposition togolaise, le Togo est entré de plein pied dans sa 5e République. C'est fait. Désormais, un an après l'adoption de la nouvelle constitution, le régime devient parlementaire. Le président Faure Gnassingbé devient donc le premier président du nouveau conseil qui concentre désormais le pouvoir exécutif. Il a été désigné hier en tant que chef du parti majoritaire à l'Assemblée, l'UNIR, élu dans le même temps hier par le Congrès des parlementaires, le nouveau président de la République qui occupera quant à lui une fonction principalement honorifique. À Lomé, retour sur cette journée qui marque un virage pour la République togolaise avec Peter Sassou Dogbé.
C'est devant deux immenses drapeaux et les membres de la Cour constitutionnelle que Faure Gnassingbé a prêté serment.
Nous, Faure Gnassingbé, président du Conseil désigné conformément aux lois de la République, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que la République togolaise s'est librement donnée.
Son poste de président du Conseil est désormais la plus haute fonction de l'exécutif togolais. Le siège de président de la République, un poste honorifique, garant de l'unité nationale, est maintenant occupé par Jean-Lucien Kwasi Lagnon, sans vie de Tové. À 86 ans, ce haut fonctionnaire, ancien ministre de Commerce, était le seul candidat. C'est Kodjo Sevon Tepe Adige, le président du Congrès, qui a annoncé le résultat du vote des députés et sénateurs.
Nous, président du Congrès, proclamons Monsieur Jean-Lucien Kwasi Lagnon, sans vie de Tové, élu président de la République togolaise au premier tour du scrutin.
Le Togo achève sa transition vers un régime parlementaire qui supprime l'élection présidentielle au suffrage universel direct. Une réforme toujours vivement contestée par une partie de l'opposition et de la société civile. Peter Sassou Dogbé, Lomé, RFI.
Une nouvelle alerte sur la situation au Soudan du Sud. Médecins sans frontières dénonce le bombardement hier d'un de ses hôpitaux dans la ville d'Old Fangak. L'ONG déplore la mort de plusieurs personnes et des blessés, ainsi que la destruction de la pharmacie, ce qui signifie la perte de tous les médicaments. Au Soudan voisin, une nouvelle frappe imputée aux paramilitaires des forces de soutien rapide. Ils auraient visé l'aéroport de Port-Soudan, où est justement réfugié le gouvernement pendant ce conflit qui est entré le mois dernier dans sa 3e année, qui a provoqué la pire crise de déplacés au monde. Port-Soudan, où nous sommes justement avec notre envoyé spécial Gaël Lalex, qui nous emmène ce matin dans l'école de filles d'Arkawit, une école qui accueille plusieurs centaines de déplacés. Reportage.
Derrière les bâtiments de l'école d'Arkawit, des tentes blanches sont plantées. C'est ici que vit Rita Kfadlarla, 13 ans. Elle a fui Khartoum il y a 18 mois.
L'école ici, c'est pas si mal, surtout pour une déplacée comme moi. Je me réveille à 6h et je me prépare. À 7h10, l'école commence. En ce moment, ce sont les examens. Les journées passent vite. L'école m'occupe beaucoup.
Alag Malik Almatar a 16 ans. Elle a quitté Omdurman avec sa mère, laissant son père derrière elle. Pour le rendre fier, elle entend réussir ses examens.
On vit à 9 dans la tente. Je fais mes devoirs et j'étudie à l'intérieur de l'école. La directrice nous y autorise. On n'a pas payé non plus les frais d'inscription. Je voudrais être ingénieur. Je veux reconstruire mon pays et faire partie d'une génération consciente.
Les effectifs de l'école d'Arkawit s'élèvent aujourd'hui à 800 élèves, dont un quart sont des déplacés. Les garçons sont envoyés dans un établissement voisin, Shama Ahmad Bachir, directrice de l'école d'Arkawit.
Les élèves déplacés sont nerveuses et ont du mal à se concentrer à cause de ce qu'elles ont vécu. Nos classes sont bondées. Certaines s'assoient par terre, parfois elles sortent pour respirer. Mais l'éducation, c'est leur droit et sans cela, les conséquences seraient terribles.
Avant la guerre, l'école d'Arkawit accueillait 70 étudiantes par classe. Aujourd'hui, elles sont près de 130. Gaëlle Lalex, de retour de Port-Soudan, Nairobi, RFI.
Il décroche avec son équipe une récompense de quelque 117 000 euros. Un vétérinaire rwandais primé pour son travail de préservation des grues couronnées grises. Il s'appelle Olivier Nsengimana. Il a été récompensé cette semaine par le Gold Award de l'association caritative britannique Whiteley Fund for Nature. Son travail, Pauline Aglaise, a permis d'augmenter la présence au Rwanda de cet oiseau qui est emblématique mais qui est pourtant en danger.
Vétérinaire, Olivier Nsengimana s'était spécialisé dans les gorilles. Ce sont finalement les grues couronnées grises qui lui valent d'être récompensé. Cet oiseau d'un mètre vingt de haut, facilement reconnaissable à sa huppe dorée, est en danger d'extinction. Pour leur venir en aide, Olivier Nsengimana a suivi plusieurs pistes, raconte Dino Martins, l'un des administrateurs du fonds Whiteley.
Au début, le travail d'Olivier a été axé sur la réhabilitation des grues qui étaient en captivité comme animaux de compagnie.
Il travaille aussi à protéger leur habitat naturel, par exemple pour préserver le marais de Rugezi dans le nord du Rwanda, un refuge pour les grues. Son association pour la conservation de la nature soutient 75 rangers. La protection des marais passe aussi par de la sensibilisation.
Les zones humides sont importantes et pourtant négligées. C'est boueux, parfois plein de moustiques, et les gens ont tendance à les ignorer.
Le Rwanda compte désormais près de 1300 grues couronnées grises, contre 300 il y a une dizaine d'années. Medino Martins salue l'effet plus large de l'action d'Olivier Nsengimana.
Olivier a utilisé les grues pour attirer l'attention des gens sur le changement climatique, sur le défrichement des zones humides, sur l'expansion de l'agriculture, et il utilise les grues comme ambassadrice.
Car en plus d'être essentiel pour l'écosystème, les grues sont iconiques.
Pauline Glaise, 6h42 à Kigali, même heure ici à Paris.
Afrique Matin sur RFI.
Restez avec nous, bien sûr, RFI Matin avec Julien Coquel-Rohem dans un peu plus de 13 minutes. Mais d'abord, on ira en Tunisie pour notre reportage du jour. Le pays qui est indigné après la mort d'un lycéen le mois dernier, tué par l'effondrement d'un mur de son lycée. Un hommage pour notre chronique littéraire. On retracera l'œuvre du Congolais Valentin Yves Moudimbe qui nous a quittés le mois dernier. Une plongée à nouveau avec 100% création dans les coulisses de l'Opéra de Paris, alors que le Palais Garnier fête cette année ses 150 ans. Mais pour commencer, les sports sur RFI. Et c'est avec vous, Antoine Grenier, bonjour.
Bonjour Sébastien.
Bon, qui sera l'élu pour le prix Marc-Vivien Fauré 2025? La question est posée car chaque jour jusqu'au 5 mai, on présente sur RFI les 12 nommés.
Pour le trophée dédié au meilleur joueur africain du championnat de France, aujourd'hui, focus sur le Guinéen du Havre, Abdoulaye Touré, l'expérimenté milieu de terrain, une des vraies satisfactions du côté de la Normandie. Salut Diouf.
Il me dit, tu dois plus être ici toi, tu dois être dans les gros clubs, tu dois être à Manchester.
Il, c'est Antoine Comboiré, son entraîneur à Nantes en 2021. Le Canac avait tout de suite décelé les qualités de l'international guinéen de 31 ans. Aujourd'hui, ce n'est ni à City, ni à United qu'il brille, mais au Havre, où il est devenu un pilier pas reconnu à sa juste valeur, selon Naïm Moniol, consultant de Radio Foot.
Il y a quand même un phénomène qui est incroyable, c'est que c'est le meilleur buteur de son équipe alors qu'il est milieu défensif. Le Havre a marqué 34 buts en championnat à l'heure où on parle, il en a mis 8. Il fait une saison quasi clinique.
Clinique pour certains, très bonne pour d'autres. Son grand frère Ereba suit avec attention la saison d'Abdoulaye. Il pense même qu'il doit s'améliorer sur un aspect précis.
Progresser sur les frappes de loin, comme je l'ai dit, contre Montpellier, il n'a pas hésité, ça a fait mouche quoi.
Ce dernier est fier de voir son petit frère faire partie des 12 nommé. Il se souvient avec nostalgie de ses premières touches avec un ballon.
Petite anecdote, dès son premier entraînement, on jouait dans le même club à Vertou. ici près de Nantes. Et je crois qu'il a frappé dans l'œil de l'entraîneur et il a appelé son frère. Il lui a dit « j'ai un joueur pour toi ». Pendant plusieurs années, le recruteur du FC Nantes voulait le faire signer.
Au-delà du footballeur, c'est aussi le côté humain d'Abdoulaye Touré qui marque les esprits.
Il est perçu comme quelqu'un d'humble, quelqu'un qui est très accessible, que ce soit auprès des habitants nantais ou des habitants du quartier de Malakoff.
C'est donc tout le quartier de Malakoff à Nantes où il est né, ainsi que toute la Guinée qui espère voir Abdoulaye Touré soulever dans les prochains jours le prix Marc-Vivien Fauré.
Saliou Diouf, et vous le savez, mais on le répète, les trois finalistes de ce prix Marc-Vivien Fauré seront révélés lundi, le 5 mai, dans Radio Foot International. Le nom du lauréat, lui, sera connu le 12 mai.
Et on le répétera jamais assez. Le rendez-vous est pris, Antoine. Du foot encore avec la CAN U20.
Et la Sierra Leone, pratiquement en quart de finale après sa victoire sur la Tanzanie 1-0. L'Égypte, elle a partagé les points 0-0 avec la Zambie. Ce dimanche, deuxième journée du groupe B. Tunisie-Kenya à 15h, temps universel. Et Maroc-Nigeria à 18h TU.
Du cyclisme. Et retour, Antoine, sur l'une des performances africaines les plus notables de ces dernières années.
La victoire de Kim Lecourte-Piénard sur Liège-Bastogne-Liège dimanche dernier. La Mauricienne, toute première africaine à s'offrir une classique, et une semaine après, elle est toujours sur son petit nuage.
J'arrive toujours pas à y croire. J'avais demandé, dès que j'ai dépassé la ligne d'arrivée, à mon soigneur de me donner une claque à la tête, parce que vraiment, j'avais l'air de rêver. Je crois que ça a vraiment changé un petit peu ma vie. Déjà, je l'ai senti l'an dernier après la victoire du Giro, mais là, c'est complètement un autre step. Je m'attendais pas du tout. Le gouvernement m'a appelé, le Premier ministre, ils sont super fiers. Le soutien que je reçois du pays, c'est incroyable. J'ai même vu un drapeau mauricien sur le parcours. On était à peut-être 20 km de l'arrivée et ça m'a vraiment touché. J'ai jamais reçu ce support auparavant.
Kim Lecourte-Piénard avec Thomas de Saint-Léger. Interview à retrouver en longueur sur notre site et dans un Mondial Sport spécial cyclisme féminin ce dimanche à partir de 16h10 temps universel.
On sera bien sûr à l'écoute. Merci Antoine Grenier. À tout à l'heure.
RFI, toute l'actualité.
Sébastien Duhamel.
4h47 en temps universel, un coup d'œil rapide sur l'actualité internationale. Et les Roumains de retour aux urnes aujourd'hui pour le premier tour d'une nouvelle présidentielle, 5 mois après l'annulation de la précédente. Israël qui rappelle des dizaines de milliers de réservistes en vue d'une expansion de son offensive contre le Hamas dans la bande de Gaza. C'est ce que révèlent plusieurs médias israéliens. Volodymyr Zelensky qui refuse de jouer avec les courtes trêves de Vladimir Poutine. Réponse du président ukrainien au président russe qui lui proposait une trêve le temps des commémorations de la Seconde Guerre mondiale à Moscou du 8 au 10 mai. Ça, c'est un drame qui a marqué l'actualité tunisienne récemment, le 14 avril dernier. 3 adolescents trouvés la mort après l'effondrement d'un mur de leur lycée à Mezzouna, à quelques kilomètres seulement du berceau de la révolution, Sidi Bouzid. Indignation dans le pays car ce triste événement met en lumière des problèmes structurels, des problèmes de développement dans les régions marginalisées. Pour notre reportage du jour, notre correspondante Lilia Blaise s'est rendue sur place.
À Mezzouna, après des jours de tension, le calme est revenu. Mabrouka Nouri, la mère d'Abdelkader Zibi, l'un des lycéens tués dans l'accident, reçoit encore les condoléances du voisinage. Elle attend une enquête sur les circonstances du drame.
Ce mur ne s'est pas effondré à cause du président de la République ou du directeur de l'école. Il était ancien. Et ici, le budget réservé aux rénovations publiques, on ne sait jamais où il va. Pour moi, c'est la faute des lobbies qui accaparent l'argent du pays depuis des années.
Un discours qui résonne avec celui du président Kais Saied, qui est venu la voir ainsi que les autres familles en deuil dans la nuit du 18 avril. Dans cette ville de 8000 habitants, la visite a été perçue positivement après des décennies sans contact avec le pouvoir central.
Il est venu nous voir, il nous a salués, il nous a écoutés, nous, les pauvres que personne ne voit.
Après la visite du président, Hanen, 43 ans, qui s'occupe seul de sa mère, a entendu les promesses de relance de l'usine de plastique fermée depuis 2008 et des aides pour l'infrastructure sanitaire. Néanmoins, elle reste vigilante.
Je n'ai aucune confiance dans les autorités locales, ni le gouverneur, ni le délégué régional. On n'arrive pas à vivre dans la dignité ici.
Ville autrefois prospère, grâce à l'une des plus grandes usines de plastique du pays, les défaillances se voient partout. L'usine est laissée à l'abandon, l'état des routes laisse à désirer, et de nombreuses constructions souffrent de problèmes d'infrastructure. Beaucoup d'habitants, comme Hanen, se sentent abandonnés.
Ici, c'est simple. Vous avez des connexions ou des contacts, vous aurez du travail, sinon vous n'êtes rien. Moi, je vis avec ma mère grâce à sa pension de retraité de 150€ par mois. Le moindre médicament pour son traitement coûte entre 15 et 20 euros. Qu'est-ce qu'il nous reste à la fin du mois?
Ce défaitisme, Mohamed Zboui, enseignant de 58 ans, l'explique aussi par l'ancienneté de l'état d'abandon des infrastructures publiques.
Si l'effondrement du mur a autant bouleversé les gens, c'est parce que tout le monde est conscient ici de l'état de vétusté de nos infrastructures. Rien n'a été réellement entretenu ou rénové depuis des décennies. On a un poste de police et une mairie, et puis pas grand-chose d'autre. L'effondrement de ce mur, c'est pour nous l'occasion d'appeler à l'aide.
Le drame de Mezouna a provoqué une onde de choc dans le pays. De nombreuses municipalités ont ainsi détruit des murs ou édifices fragiles, par peur que le scénario ne se répète. Lilia Blaise, Mezouna, RFI.
Un reportage en Tunisie à retrouver comme tous nos contenus sur Internet, bien sûr. Allez, un hommage pour notre chronique littéraire ce week-end. Hommage au Congolais Valentin Yves Moudimbé, qui s'est éteint le mois dernier. Il avait 83 ans, romancier, poète, essayiste. Valentin Yves Moudimbé a profondément marqué la pensée contemporaine sur le continent. Intellectuel incontournable des études africaines à travers le monde, c'est bien sûr Tirtan Karchanda qui lui rend cet hommage.
La philosophie est grecque en termes de tradition, ses fondements conceptuels et sa diffusion. Les civilisations non occidentales ne sont pas, elles non plus, dépourvues de systèmes de connaissances. En Afrique ou en Amérique latine, par exemple, il existe des systèmes de savoir organisés selon l'exigence rationnelle d'unité.
La voix que l'on vient d'entendre est celle de l'écrivain congolais Valentin Yves Moudimbé. Son œuvre touche des domaines aussi divers que la philosophie, la littérature, l'anthropologie, la sociologie ou encore la philologie. Bref, un auteur inclassable en dépit d'une continuité thématique d'un livre à l'autre. Moudimbé réfléchit sur les modalités de la construction des savoirs en Afrique et sur l'Afrique. C'est le thème de son essai philosophique « L'invention de l'Afrique » que le Congolais vient de faire paraître en français aux éditions Présence africaine. Philosophe, mais aussi romancier et poète, Moudimbé est né dans le Congo belge. Formé par des frères bénédictins, le futur écrivain était voué à la prêtrise, mais il renoncera à la vie religieuse et ira en Belgique pour suivre des études de philosophie. Devenu universitaire à son retour au pays, il supporte mal le tarissement de la vie intellectuelle sous Mobutu. Il quittera le Zaïre en 1979 pour les États-Unis, où il a depuis fait une grande carrière universitaire. Comme l'explique Bernard Mouralis, professeur de littérature francophone à Paris.
Il était dans une situation très difficile parce que est-ce qu'on peut être philosophe sous le régime de Mobutu? Il avait un poste très important sur le plan académique, mais il a refusé certaines compromissions et il a refait sa vie très courageusement aux États-Unis. Progressivement, sa figure en tant qu'universitaire s'est affirmée. Il est devenu quelqu'un de connu par ses livres.
Moudimbé est entré en littérature au début des années 1960. En publiant des recueils de poésie au titre emblématique de sa conscience déchirée, déchirure, fulgurance d'une lézarde ou encore les fuseaux parfois. Sa poésie s'inspire des crises et des tragédies humaines que le Congo belge a connues au moment de l'indépendance avec la mise à mort de Lumumba et la sécession du Katanga. Bernard Mouralis.
Les poèmes sont marqués par une expérience existentielle primordiale qui est celle de la déchirure, de la souffrance, car évidemment, les conditions d'indépendance du Congo belge ont été bouleversantes pour les populations.
L'œuvre romanesque de Moudimbé, formée de 4 titres, se nourrit aussi de cette expérience de déchirure collective, doublée de la déchirure individuelle de l'auteur. C'est notamment le sujet du premier roman quasi autobiographique de Moudimbé, Entre les eaux, paru en 1973. Après un second roman intitulé Le bel immonde, qui plonge le lecteur dans le Congo des ténèbres sous Mobutu, Moudimbé donne avec son troisième roman, L'écart, l'un de ses ouvrages de fiction les plus réussis. La fiction ici rejoint la dérive de la vie intellectuelle en Afrique. À travers l'histoire de son personnage principal, Nara, engagé dans une recherche anthropologique visant à décoloniser les connaissances établies, le romancier met en scène le drame de l'intellectuel en Afrique, incapable de s'instaurer en sujet face à l'Occident, à la fois dominateur et maître des outils de sa contestation. Penser contre l'Occident est encore occidental, écrit Moudimbé. La tragédie de l'homme dominé est le véritable sujet de l'œuvre du Congolais. Une tragédie qui se déploie tant dans ses ouvrages proprement littéraires, tout comme dans ses essais philosophiques, que nous évoquerons plus précisément la semaine prochaine dans la deuxième partie de cette chronique consacrée à l'un des auteurs africains peut-être les plus universels par la profondeur historique de sa vision.
On vous retrouve donc la semaine prochaine, Tirtan Karchanda, pour vos chemins d'écriture. À Paris. Un anniversaire, ça se fête évidemment, surtout quand on souffle sa 150e bougie. Alors, le Palais Garnier à Paris ne veut pas rater le sien, avec une programmation exceptionnelle cette année. Et nous, sur RFI, on en profite pour retourner dans les coulisses de l'Opéra National de Paris, qui a ses quartiers sur place. 100% Création et Maria Afonso vous proposent une rediffusion de leur série en trois volets dans ce chef-d'œuvre de l'architecture Second Empire. Ce matin, rencontre avec Suzanne D'Angèle, responsable des costumes de l'Opéra.
La créativité en général, je dirais, ce que j'ai fait là aujourd'hui, c'est toujours une sacrée assurance pour le bon goût.
Suzanne D'Angèle est née en Allemagne. Elle s'y est formée au métier de la scène. Venue faire un stage par curiosité à l'Opéra de Paris, elle est restée en contact et y est revenue en 1991 pour ne plus quitter cet univers unique.
Déjà, j'adore la danse. J'étais aussi un petit rat sans ambition, hein, jusqu'à 15-16 ans, ouais. Ce que j'ai trouvé ici, hein, déjà une équipe formidable. Là, dernièrement, j'ai travaillé sur un ballet qui va rentrer en répertoire sur les origines de Londres. Et c'est une production qui date des années 70. Reproduire le plus proche possible, c'est un sacré défi, hein, ça. Par exemple, l'urex, des dentelles l'urex, c'est pas très à la mode. Maintenant, on rajoute partout des paillettes et des perles. Et on essaye de trouver autre moyen, par la broderie, ou par-ci, par-là, il faut faire des concessions. Hein, ça. Mais il faut énormément de patience, persévérance, je dirais même jusqu'à la passion. Hein. C'est pas donné à tout le monde. On n'est jamais complet, on apprend toujours. Hein, ça. Heureusement d'ailleurs, on a besoin de ça. Il faut d'imagination pour voir ce que ça peut donner au final. Ce qu'on fait en peu de temps, quelquefois c'est magique. Je ne peux pas dire oh non, on n'est pas prêt, personne ne va comprendre. Ça ne passe pas.
Suzanne D'Angèle reconnaît l'exigence de son métier, à la fois passionnant, difficile, mais toujours gratifiant.
À une première répétition, si le danseur déjà est content dans son costume, si le chorégraphe est content avec le résultat, ça me va. Si on peut assister à la première et les autres soirs, si au bout, le public debout, là, je trouve que c'est un peu une récompense. C'est magique ce moment pour tout le monde. Et ça récompense pour tout, hein. Ça, on oublie tout. C'est comme si je suis sur scène aussi, hein. Ça porte.
Retrouvez Suzanne D'Angèle, responsable de production des costumes de l'Opéra de Paris, sur RFI.fr, chronique 100% création et en podcast.
Maria Afonso, on vous retrouve bien sûr sur Internet. Allez, une pause en musique sur RFI. On vous propose d'écouter un extrait de la sélection RFI Musique du mois. On écoute le titre Rose Épine signé d'Anna Magidson.
L'ombre du temps passe encore contre ta joue. Je m'endors encore une fois. C'est toi qui remporteras. T'es sous le choc, ne t'en va pas. Garde tes clés sous le pouce. C'est normal que tu touches au bout du fil. Je voudrais t'aimer.
Rose Épine d'Anna Magidson, extrait de la playlist RFI Musique du mois. Plein de pépites comme celle-ci vous attendent donc sur Internet. Merci à Pauline Berthélémy qui était à la réalisation, Pierre Pinto à la rédaction en chef. On salue ce matin Majadou Maltonan Evariste qui nous écoute à N'Djamena. Il nous a écrit sur l'adresse africematin@rfi.fr. Restez avec nous, RFI Matin avec Julien Coquel-Rohem dans 30 secondes.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Élu dès le premier tour avec 95% des voix, Brice Clotaire-Oligui Nguema a prêté serment ce samedi comme président du Gabon. Le tombeur de la dynastie Bongo se sait très attendu sur les questions sociales et économiques. Quelles sont vos attentes, vos priorités?
Appel sur l'actualité 33 9 693 693 70.
Juan Gomez, avec vous au téléphone du lundi au vendredi à partir de 8h10 TU.
À lundi sur RFI.